Bon, pendant ce temps, donc, je vous ai lancé, je vous ai demandé c'est quoi votre priorité. Alors, je vous donne des exemples. Ouvrir les restos, vous êtes un certain nombre à me parler des restos. Vous me parlez beaucoup aussi des rassemblements familiaux contrôlés, donc les rassemblements à l'extérieur, sur les terrains privés. Donc, aller à l'extérieur avec des amis dans la cour, tout ça, c'est très important pour vous. Je dirais, là, à vue de nez, là, c'est ce qui est le plus important pour vous actuellement. Les rassemblements dans la cour et les restaurants sont pas loin derrière. Là. Je regarde ça vite, vite, vite. Là. Tu vas avoir le droit de recevoir nos familles. Jordan qui me disait, lui, bon, ça vient de sauter. Attendez un petit peu. Jordan, il me disait, lui, rassemblement extérieur avec la famille. Après ça, les sports extérieurs. Après ça, la levée du couvre-feu. Je dirais, à vue de nez, encore une fois, c'est pas la levée du couvre-feu qui est la plus prioritaire pour vous. C'est vraiment le rassemblement des personnes, les restos et un certain nombre d'entre vous me parlez également des sports pour les jeunes. J'ai quelqu'un qui m'a dit là, les enfants ont assez payé. Là, c'est le temps de penser à eux. Mais voyez-vous, je parcours rapidement là. Je vois le mot famille et familial et amis là, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, c'est vraiment les rassemblements. C'est ce que vous voulez. Vous avez hâte de revoir votre monde. Vous avez hâte de serrer, on pense qu'on va être capable, là, si on est vacciné, de serrer notre monde dans nos bras, là. Hein? Je veux dire, là, à un moment donné. Ah, tu vois, là, il s'agissait que je dise le couvre-feu semble pas être votre priorité pour qu'il y ait un paquet de monde qui commence à m'écrire pour me dire le couvre-feu. Alors, continuez à me texter au 98985. Et puis, Alexandra et Maryse vont faire une espèce de, une sorte de recension de tous vos, de toutes vos réponses. Texto, courriel, les appels dans un instant. Et puis, on va avoir une petite idée non scientifique de ce qui est prioritaire pour vous. Alors, juste pour continuer sur ce sujet. À matin, je regarde ça. Et je vois ça, un médecin, toi, de l'hôpital Pierre-Boucher, donc à Longueuil, qui fait une sortie pour dire, là, le couvre-feu, ça va faire. Et puis là, les terrasses, il faut ouvrir ça. Puis ça m'a un petit peu surpris, parce que depuis le début de la pandémie, on a l'habitude d'entendre les médecins qui plaident pour le respect des mesures de confinement ou encore même le resserrement des mesures, surtout pas l'allègement. Or, le docteur Éric Sabat, cardiologue à Pierre-Boucher, lui, il plaide pour un allègement. Docteur Sabat, bonjour.
Bonjour, M. Drainville.
Dites-moi pourquoi. Ça me fait plaisir. Dites-moi pourquoi vous plaidez pour l'allègement.
Bon, premièrement, je suis d'un des médecins dont vous faites référence qui, pendant toute l'année...
Le docteur Sabat, parlez directement dans le combiné parce qu'on entend davantage la voix de l'hôpital que votre voix à vous, là.
D'accord. Vous m'entendez mieux?
Ah, là, c'est beaucoup mieux. Allez-y.
Bon, très bien. Donc, je suis parmi ces médecins qui, pendant la dernière année, respecté complètement les recommandations sanitaires et puis fait pousser pour cela. Il en demeure pas moins que on a poussé pour la vaccination, la population a répondu. Et là, il y a certaines mesures qu'on a utilisées, qui s'étaient voulues peut-être temporaires et qui sont quand même extrêmes, telles que le couvre-feu, qui, à mon avis, n'ont plus la raison d'être actuellement. Le couvre-feu avait pour but d'éviter les regroupements familiaux lorsqu'il faisait pas beau à l'intérieur, dans le froid. Présentement, autant le personnel de la santé que la population a besoin de pouvoir, après une journée de télétravail ou de travail intérieur, pouvoir aller profiter de l'extérieur et de pouvoir sécuritairement se promener dehors et profiter du centre-ville de Montréal tel qu'on le connaît l'été.
Et profiter des journées qui continuent de s'allonger jusqu'à la Saint-Jean-Baptiste, là, mine de rien, on est dans les journées où il y a le plus de clarté là, pendant encore à peu près un mois, là, mais après ça, on commence à perdre de la lumière, là.
Exactement. Donc, cette idée d'attendre encore un mois pour retirer le couvre-feu, il va falloir qu'on l'explique scientifiquement parce que je ne pense pas qu'elle tient la route. Au contraire, on annonce des températures très élevées, puis les personnes vivant seules dans un logement non climatisé sous un couvre-feu peuvent avoir des complications sérieuses. Sincèrement, le couvre-feu, pour moi, c'était, je pense, une priorité de dire que le travail a été fait. Maintenant, favorisons la population à sortir dehors et ne pas rester à l'intérieur, que ce soit dans les cours arrière ou sur des terrasses bien organisées, je suis en faveur, beaucoup plus que c'est ce qui se fait un peu en catimini maintenant, c'est-à-dire des 5 à 7 ou des 5 à 9, des rencontres dans les maisons parce qu'on ne peut pas faire grand-chose d'autre. Les gens ont besoin de se rencontrer. C'est très difficile. Je le vois autour de moi, incluant le personnel de la santé. C'est sûr qu'on finit par rencontrer, on est vacciné, on finit par rencontrer un ami, un parent, et puis on le fait à l'intérieur puisqu'on veut pas se faire voir. Je veux dire, on peut pas se le cacher. Ça se fait. Et je pense qu'il faut absolument favoriser l'extérieur actuellement.
Est-ce que c'est une question de santé mentale pour vous?
Oui, c'est vraiment une question de santé mentale. Il y a un mois et demi, vous me diriez la même chose, j'étais très alarmiste en craignant une vague qui pouvait atteindre le double de ce qu'on a eu, comme en Ontario. Mm. Et je pense qu'on a bien géré ça, et bravo pour avoir pris les bonnes décisions. Mais ces décisions, maintenant, doivent être adaptées à la pandémie qui avance et qui s'améliore. Et puis, ça ne peut pas durer actuellement, parce que le mental des troupes, autant au niveau de l'hôpital avec beaucoup de démissions. La crise hospitalière maintenant est une crise de personnel et non plus une crise de COVID à l'intérieur des murs. Là, c'est vraiment une crise de personnel qui ne peut pas prendre de vacances pour voyager parce qu'au retour, même s'ils sont doublement vaccinés, ils doivent faire la quarantaine. Donc, c'est pas faisable. Deuxièmement, ils finissent de travailler des fois des doubles shifts. Ils n'ont même pas le temps d'aller se changer les idées, prendre une marche à l'extérieur. Donc, c'est vraiment particulier, là, comment ça peut affecter le moral et le mental des troupes.
D'ailleurs, vous plaidez, vous, pour que le personnel de la santé, qui, dans bien des cas, s'il l'a voulu, a obtenu ses deux doses, vous dites on devrait leur permettre de faire un voyage et lorsqu'ils reviennent, comme ils ont reçu leurs deux doses, on devrait leur épargner la quarantaine. D'une certaine manière, c'est comme si vous proposiez une forme de récompense pour le sacrifice et le travail exceptionnel du personnel de la santé depuis le début de la pandémie. J'interprète bien vos propos?
Ben, c'est pas tout à fait comme ça que je l'avais présenté, parce qu'il y a quand même 2-3% de la population autre que les personnes de santé qui est doublement vaccinée. Je pense que à un moment donné, il va falloir débuter le voyage et tenter l'expérience et se convaincre que ceux qui sont doublement vaccinés reviennent sécuritairement au pays, comme ça se fait dans les autres pays. Et pourquoi attendre que 70% de la population ait les deux vaccins pour amorcer le voyage? Je pense que ça n'a pas de sens. Je pense réellement.
Donc l'exemption de quarantaine au retour d'un voyage, dès que tu as reçu deux doses, tu serais exempté de quarantaine.
C'est ce que je pense qui est tout à fait faisable en faisant des tests, tout simplement un test PCR en revenant. On a actuellement de plus en plus. Les Américains ont déconfiné beaucoup, là. Pas juste parce qu'ils sont très vaccinés, bien sûr que ça aide, qu'ils sont plus à l'avance, mais aussi parce que des données deviennent de plus en plus claires que lorsqu'on est doublement vacciné, on ne transmet pas comme la question se posait, on n'avait pas la réponse auparavant. Mais maintenant, les données s'accumulent, on n'est pas des transmetteurs de virus, même si on devient en contact avec le virus. La charge qui se développe chez quelqu'un qui a deux vaccins est tellement faible, d'accord, qu'il n'est probablement pas un propagateur.
Mais si je lis bien l'entrevue que vous avez donnée à TVA, vous pensez que cette mesure-là, deux doses, pas de quarantaine, pourrait être une forme de remerciement pour le personnel de la santé qui souhaiterait s'en prévaloir?
Je peux vous dire, moi ma vie, c'est à l'hôpital, donc je côtoie tous les jours du personnel infirmier, etc. Et tout ce que j'entends, c'est qu'ils ont hâte depuis des mois de pouvoir aller prendre une semaine de repos à l'extérieur et revenir, c'est sûr. Ça, c'est ma vie que je compte. Personnellement, d'accord, j'ai un bébé, j'ai aucune intention d'en bénéficier. C'est pas une récompense personnelle. Mais je peux vous dire que dans le milieu de la santé, c'est une attente qui est là depuis déjà un certain temps. D'accord. On attendait cette deuxième dose.
D'accord, très bien. Docteur Éric Sabat, donc cardiologue à l'hôpital Pierre-Boucher, merci pour l'entrevue.
Merci, M. Drainville.
Luc Lavoie.
Oui, Bernard.
Qu'est-ce que tu en penses?
Ben, particulièrement la fin de ton entrevue, là, ce que disait le médecin, là, ça, c'est quelque chose qui a motivé le Center for Disease Control aux États-Unis de permettre d'enlever le masque puis de libérer davantage d'espace.
Avec deux doses, oui.
Avec deux doses. Mais là, ça indique un certain nombre de choses. Premièrement, on devrait commencer maintenant à donner la deuxième dose. Pourquoi je dis ça? Parce que là, on nage dans les vaccins. Là. Ça rentre à coups de millions. Là. Je pense que cette semaine, il en rentre 4,5 millions au Canada. Alors, au lieu d'en laisser dormir dans les frigos, accélérer.
Mais il y en a pas qui dorment dans les frigos, là, Luc.
Ben,
là,
je pense que oui, Bernard.
Non, il y en a pas, Luc. Il y en a pas, là. J'ai vérifié à Québec hier, là. Puis je vais te dire, la priorité, là, actuellement, avec les vaccins qui rentrent, là, c'est les 12-17. OK? Les 12-17 ans. Mm-hmm. Et les RPA.
Oui, oui.
C'est d'accord. Ça, leur priorité, là. C'est les résidences privées, là.
Oui,
ils vont déployer la machine avec ça, là. Et, oui. et les vaccins, la deuxième dose, là, pour le moment, la deuxième dose, là, ça va être début juillet.
Ah bon?
Ben moi, oui.
Je pensais qu'au rythme où allaient les choses, Bernard, ils allaient être capables de devancer la campagne de deuxième dose.
Ils auraient pu, mais pour ça, il aurait fallu qu'ils décident de garder les 12-17 ans pour plus tard. Et donc, en priorisant les 12-17 ans, ce qu'ils auraient pu devancer comme deuxième dose, ben ils retournent au calendrier prévu, d'accord. C'est-à-dire en juillet. Ils ont fait le choix, à moins qu'ils peuvent encore décider aujourd'hui que ce sera pas ça, ou même demain avant le point de presse de 17 heures. Mais hier soir, en date d'hier soir, là, ce qu'ils me disaient à Québec, c'est, regarde, si on y va avec les 12-17 ans, ça veut dire qu'il faut les vacciner dans la semaine du, je pense, c'est le 14 juin, là, c'est un lundi, ça, si je me trompe pas. Et donc, les vaccins, c'est là qu'ils vont aller. Et les RPA. Aussi.
Mais revenons à l'idée du déconfinement.
Oui.
C'est le chroniqueur Claude Villeneuve qui écrit ce matin dans sa chronique dans le Journal de Montréal, Journal de Québec. Il dit c'est comme si l'an dernier, on n'avait pas récupéré le droit de se rassembler à l'intérieur au Québec. C'était le 8 juin. Il y avait 5 fois plus de morts chaque jour, 2 fois plus de personnes hospitalisées, et on testait 6 fois moins. En d'autres mots, comment on a pu nous donner un été comme celui de l'été dernier, qui a franchement été très bien,
oui.
Il a été très bien.
Oui.
Comment on peut faire ça, puis arriver maintenant que la vaccination est quand même avancée,
oui.
et on peut pas me dire qu'un seul vaccin ne donne pas aucune protection, sans ça on ne l'aurait pas fait.
On s'entend.
Alors moi je pense que il va falloir qu'il ouvre un peu plus large, là, parce que ça devient mais carrément... invivable. Tu sais plus quoi faire. Puis cette semaine, en plus, Bernard, on a des journées de 26, 27, 30 degrés Celsius. Là, tu l'as dit, la journée qui se prolonge. Là, il faut arrêter là, d'essayer de découper tout en petits morceaux. Accélérons la vaccination, puis laissons les gens respirer un peu. Là. Franchement, là, on arrive là.
Parce que si on le fait pas, Luc, les gens vont le faire par eux-mêmes.
Moi, ils vont le faire par eux-mêmes.
C'est ce que je sens actuellement.
Ils le font par eux-mêmes. Hier, je me suis retrouvé avec mes deux petits-fils dans un parc.
Oui.
Bon. Et puis, tout autour, là, c'était pas des familles, c'était des groupes mélangés. Puis, franchement, là, j'avais rarement vu autant de bonheur et de détente dans le visage des gens. Il y avait une belle journée. Les gens étaient là, ça jouait au frisbee,
oui.
Ça mangeait des sandwichs, ça s'amusait, la famille, puis c'était pas juste la famille. À un moment donné, il faut arrêter d'arriver avec des directives que les gens ne respecteront pas.
D'accord.
Et surtout, arrêtez de nous dire que le vaccin change rien.
D'accord.
Il faut que le vaccin change quelque chose.
D'accord, merci mon Luc. M'en vais à vos appels après la pause. 790-9850, je vous repose la question. Qu'est-ce qui est prioritaire pour vous, la première mesure que vous voulez voir lever? Je vous donne le résultat du sondage non scientifique. Continuez à m'écrire, continuez à me texter 98985, courriel Drainville à commercial 985fm.ca, 790-9850, après la pause.